Nous allons ouvrir la parole de Dieu et j'aimerais que ce matin, et puis il y aura une suite, très certainement, faire une introduction aux dons spirituels. Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est tellement important. Tellement important. Et j'y reviendrai dans le cadre de mes visites avec certains, c'est déjà prévu. Parce que il faut que il y ait le bon cadre. Et un cadre ou une organisation n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir. Voilà, il y a des idées reçues, des idées fausses. Un cadre et une organisation, et le cadre, il est posé par la parole de Dieu, n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir. Et puis, je le disais vendredi, je le répète encore ce matin, je fais partie de ces pasteurs de la Pentecôte. J'ai été formé avec des serviteurs de Dieu qui ont connu le réveil en Algérie, à l'époque avant les événements. Et j'ai entendu de leur part des témoignages magnifiques, que ce soit Oran, Alger, etc., où Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, sauvait, libérait, guérissait, alléluia, confirmait sa parole. Merci Seigneur. Je crois qu'il y a quelques années de cela, c'est pas si longtemps que cela, dans une de nos revues qui s'appelle Le Pentecôte, le journal de Pentecôte, il y avait un historique sur le réveil d'Algérie. Alors, ceux qui gardent les vieux Pentecôtes, parce que vous y êtes abonnés, ben, vous retrouverez ces articles très édifiants, très encourageants. Et donc, je suis, comme d'autres collègues avec moi, un vif défenseur de la vie de l'esprit. Je bénis Dieu pour l'église de Groyer qui va de l'avant dans ce domaine. Mais il y a encore de la marge. Nous bénissons le Seigneur parce que ce que je viens de dire pour Groyer, nous le voyons ailleurs. Et il est très important dans le cadre du développement de l'œuvre de Dieu, on appelle cela M2, M au carré, multiplication, sur le plan national. Je suis convaincu que ce que nous vivons et ce que nous allons vivre dans ces derniers temps, dans ces derniers jours, vont être des moments formidables pour chaque église locale, pour nos églises en France, dans l'œuvre missionnaire, et puis en Europe, parce que nous collaborons avec des assemblées de Dieu d'Europe. Eh bien, je suis convaincu que l'action du Saint-Esprit va faire toute la différence. Mes frères et sœurs, je vous invite à revenir. Il y a un chant qui dit « Reviens au cœur de la louange ». Moi, je voudrais rajouter « Reviens au cœur de la vie de l'Esprit ». Et quand nous lisons les textes et nous allons les lire et les méditer, eh bien nous nous rendons compte qu'aux yeux de l'apôtre Paul, c'était on ne peut plus important. Pour l'Église du premier siècle, alors d'autant plus l'Église des derniers siècles. Il y a des textes fondamentaux à propos des dons spirituels. Et l'un d'entre eux, bien sûr, il est incontournable, c'est 1 Corinthiens 12, verset 7. Il est écrit « Or, à chacun ». La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Il faut faire attention à chaque mot. En effet, à l'un est communiqué par l'Esprit une parole de sagesse. J'aime pas la traduction, là, donnée. Ça me plaît pas. D'ailleurs, c'est pas réel. On n'a pas de don propre à nous. Je le répéterai, ça. Hein. Ça, c'est le monde occulte. D'accord ? Les guérisseurs et tout ce que vous voulez, les barreurs, toute cette affaire-là. Mais ça, c'est occulte, c'est diabolique. Un chrétien n'a pas un don à vie. C'est-à-dire, moi, j'ai le don de guérison. C'est faux. Vous avez entendu ça, c'est une fausse doctrine. Alors, je préfère ce mot. En effet, à l'un est communiqué par l'esprit, une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, la foi, par le même esprit. Nous les verrons, hein, pas ce matin, mais à un autre moment. Un autre des dons de guérison par le même esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre diverses sortes de langues, un autre l'interprétation des langues, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant, les communiquant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 31, l'apôtre Paul dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Déjà, j'ouvre une parenthèse très rapidement, je referme cette parenthèse, c'est pour rappeler ceci. On ne peut vivre les dons spirituels qu'à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ et que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Sinon, vous ne pouvez pas vivre les dons spirituels. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Aspirez aux dons les meilleurs. Il y a ce mot, ce verbe, aspirer. Et ce mot vient de la traduction d'un verbe grec qui signifie, donc littéralement, montrer du zèle envers. Désirer fortement. Désirer ardemment. Désirer de tout votre cœur. Donc, ça signifie cela, aspirer aux dons spirituels, aux dons les meilleurs. Et ce désir vient de l'envie qui doit naître normalement et doit être normalement dans le cœur d'un croyant, né de nouveau, en Jésus-Christ. Ce désir de vivre les dons spirituels après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, vient de l'envie de servir avec efficacité. Mes frères et sœurs, ne me dites jamais que vous pouvez servir avec efficacité sans le Saint-Esprit. C'est un non-sens. Et c'est contraire à ce que nous enseigne la Bible. C'est contraire à ce que nous a enseigné Jésus. Jésus dira à ses 120 environ qui se sont rendu donc dans cette chambre haute à Jérusalem d'attendre la promesse et de leur rappeler ou de souligner cette vérité, de dire « voici de la puissance », je préfère le sens littéral parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, c'est la personne. Troisième personne de la Trinité, c'est Dieu, c'est Jésus, le Saint-Esprit communique de la puissance. Vous recevrez de la puissance. Afin d'être mes témoins, dit Jésus, mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui partage quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui communique quelque chose de fort, de profond, quelque chose de vrai, quelque chose qui touche. Mes frères et sœurs, si peut-être vous vous sentez éteint spirituellement, je vous encourage vivement à vous laisser rafraîchir, renouveler, visiter spirituellement. Pour que vous soyez des témoins agroyés dans le Tarn, efficace. Et le Seigneur l'a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Bref, dans beaucoup d'autres endroits, jusqu'aux extrémités de la terre. Être baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas quelque chose d'incontournable pour celui qui est appelé à prêcher la parole. Pardonnez du peu, mais nous sommes et vous êtes tous appelés à vivre les dons spirituels dans l'église de Groyer. Et pour les vivre, il faut laisser le Saint-Esprit vous remplir. Il faut que le Saint-Esprit prenne toute la place dans votre vie. Il faut que rien ne fasse obstacle au Saint-Esprit. Ce désir vient donc de l'envie de servir avec efficacité. Et ça va se traduire par le fait que l'on prie dans ce sens. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent au Seigneur. Luc chapitre 11. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mais c'est pareil pour les dons spirituels. C'est exactement la même chose. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Il faut demander. Il faut y aspirer. Le mot est là. Il faut le désirer ardemment. Montrer du zèle à Dieu pour dire « oui, je veux le vivre ». Déjà parce que je vais être un instrument de bénédiction autour de moi, car c'est pour l'utilité commune. Et donc, ça va faire toute la différence. Vous savez, dans le chapitre 14 de sa première lettre, Paul, lettre aux Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, Paul va expliquer beaucoup de choses en ce qui concerne le vécu de la vie de l'esprit, c'est le cadre. La manifestation des dons spirituels, comment, pourquoi? Et au verset 13, à un moment donné, il va dire ceci, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter les langues. Ça fait partie des dons spirituels. Et il ressort de ces textes, de celui-ci, du contexte, qu'il faut, en définitive, une attitude, une position d'aspiration, on revient sur ce mot, et de demande, on insiste. Mais nous verrons plus loin que ceci sera vraiment efficace dans la mesure où une disposition, écoutez-moi bien, parce que le chapitre 12 et le chapitre 14 se trouvent donc cernés par le chapitre 13 qui parle de l'amour. Et là, j'attire votre attention, c'est que l'amour n'est pas dans les paroles que je prononce. C'est pas ça. Parce que dire à quelqu'un « je t'aime », n'importe qui peut le dire. L'amour se manifeste également et surtout dans les actes. Et l'apôtre Paul dira « si vous n'avez pas l'amour, dans le sens, ce vécu d'amour, cette manifestation de l'amour de Dieu réellement, qui m'amène à ne plus parler mal de mon frère et de ma sœur, ça peut être des obstacles. Attention à ça. Je vous dis attention. Qu'il y en a qui sont légers dans cette affaire-là. Je vous dis attention. Parce qu'automatiquement, vous verrouillez tout. Dans votre propre vie, votre propre maison, dans le cœur de vos enfants, dans le cœur de ceux que vous côtoyez. Je vous dis attention. Parce que, à un moment donné, il y a le résultat de ce que je dis et de ce que je fais. Il faut une disposition d'amour. C'est ça qui va être la base de la motivation qui va être une motivation saine et qui pousse donc effectivement librement à aspirer aux dons spirituels. Et Dieu va donner pour l'utilité commune. À désirer de tout mon cœur. Et Dieu va agir. Parce que je vais le demander dans la prière. Je dirais que cette attitude-là, alors, elle correspond à ce que Jésus a dit. C'est-à-dire qu'elle va correspondre à une soif immense dans mon cœur. Le Seigneur en a parlé dans l'évangile de Jean, c'est rappelé, c'est souligné, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est la fête des tabernacles. Eh bien, Jésus se tenant debout au milieu de la foule, là, devant le temple. La foule est réunie, c'est le dernier jour, c'est le grand jour. Jésus a choisi le moment qu'il fallait. Et il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et le Seigneur, il nous est dit qu'il a dit cela par rapport à l'Esprit Saint, au Saint-Esprit, à l'effusion de l'Esprit, à la plénitude de l'Esprit, au don spirituel, parce que c'est lié, que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. car l'Esprit n'était pas encore à ce moment-là, Jésus était présent sur la terre. À partir du moment où il a été, après sa résurrection, eh bien, enlevé au ciel, il est retourné à la droite de Dieu, c'est là qu'il a envoyé son Esprit. Jésus est dans le ciel, le Saint-Esprit est là. Et c'est la raison pour laquelle un tel enseignement qu'il faut connaître, qu'il faut recevoir, qu'il faut accepter, qu'il faut vivre, et on ne peut plus important, aux yeux du Seigneur, dans votre vie chrétienne, mes frères et sœurs, que vous soyez jeune ou que vous soyez âgé, que vous soyez bien portant ou que vous soyez malade. Parce que là aussi, j'ouvre une parenthèse, il y a tellement de fausses doctrines qui circulent depuis tant d'années et qui commencent à revenir avec force, c'est de dire, par exemple, que quelqu'un qui est malade ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. C'est une hérésie. C'est une folie. Je veux vous donner un témoignage très rapidement, peut-être j'ai déjà fait, je sais pas, je prêche tellement la parole que force. Lorsque nous étions en poste pastoral dans les Cévennes, dans la ville de Ganges, je me souviens de cette jeune femme qui est venue pour les premières fois, qui a été touchée par l'évangile de Jésus-Christ, qui a été pardonnée, lavée dans son péché, qui a mis sa foi dans le Seigneur. Et cette jeune femme avait un problème de santé qui n'était pas des moindres et qu'elle avait contracté avant d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur dans la vie qu'elle menait. Elle était séropositive. Et cette femme, normalement, elle devait, quelques mois plus tard, mourir des conséquences du sida. Car on ne meurt pas du sida, mais on meurt des conséquences du sida qui affaiblit le corps, et là, il n'y a plus de possibilité de lutter contre toute maladie, et on tombe malade et on meurt. Elle devait mourir. Et elle vient nous voir et elle nous dit, pasteur, également mon épouse, ça que j'ai dit au pluriel, nous, j'aimerais que dimanche prochain vous me fassiez l'onction d'huile. Je crois que Jésus peut me guérir. Et nous avons prié pour cette femme, comme on l'a fait tout à l'heure pour Pamela. Et quelques jours plus tard, elle devait se rendre à Bordeaux, puisqu'elle était suivie par un grand professeur de Bordeaux, dans ce cadre du sida, de cette problématique, déjà à l'époque, bien sûr, plus accentuée encore. Et il la suivait régulièrement avec des examens. Et là, elle dit, bon, mais il faut que j'y aille. Elle y est allée, et il s'est avéré que il y a eu quelque chose qui a amené ce professeur et toute son équipe à ne rien comprendre. Elle avait toujours le virus du sida, elle était séropositive, mais chose qu'il ne comprenait pas, puisqu'à l'époque la trithérapie n'existait pas encore, l'arrivée, il ne comprenait pas parce que le virus du sida était verrouillé. Et il n'y avait pas, la trithérapie, tous les médicaments qui sont proposés aujourd'hui. Il était verrouillé. Et là, ils se sont tirés les cheveux, ils ont dit, mais c'est pas possible. On n'a rien fait. Et elle a dit, elle a rendu témoignage, c'est Dieu qui est venu à mon secours. Elle est rentrée, elle a rendu témoignage à l'église. À l'époque, pour ça, écoutez bien, je donne le témoignage dans sa totalité, mais vous allez comprendre pourquoi je donne ce témoignage. À l'époque, nous n'avions pas, pour la Sainte-Seine, parle pour les plus âgés, n'avait pas ce système-là, petit verre. On avait encore les coupes. Alors, selon la grandeur de l'église, il y en avait deux, trois. Et donc, l'église de Ganges est composée d'une quarantaine de personnes. On avait une coupe. Et ça va vous faire certainement réagir, je l'espère, parce que c'était pas normal, mais après j'ai fait ce qu'il fallait faire. Les chrétiens, quand il y avait le moment de la Sainte-Seine, ils arrivaient tous plus ou moins vers alors que le culte, je dirais, au milieu du culte, pour regarder où elle s'asseyait, pour se mettre devant elle et prendre la coupe avant elle. Déjà, ça, c'était une horreur. Et j'ai dit aux chrétiens d'arrêter, parce que ça, c'est pas de l'amour. Je prêche sur le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, et cette femme, je fais un appel, des chrétiens se lèvent, et je la vois pas se lever. C'est son choix. Mais je suis quand même interpellé. Connaissant donc la situation que je viens d'évoquer, ça me gêne. Alors, je laisse le culte passer, nous allons avec mon épouse la visiter, et là, je lui pose la question, je lui dis, « Sœur, pourquoi vous vous êtes pas levée ?» Et je m'y attendais à la réponse. Elle dit, « Parce que je suis malade. » Et je dis, « Qui c'est qui vous a dit ça ?» Elle m'a dit, « Je l'ai lu dans un livre il n'y a pas longtemps. » Alors, j'ai dit, « Montrez-moi le livre. » C'était un tissu de mensonges. J'y ne lisais plus des livres comme ça. Puis, après tout, demandez-moi conseil, mais lisez surtout la Bible. Parce qu'il y a des livres, laissez-moi vous dire, il faut s'accrocher. Hein. Il y en a qui feraient mieux de lire leur Bible avant d'écrire des livres. Moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas d'écrire des livres. Par contre, ça m'intéresse de lire la Bible. En même temps, il y a de très bons livres. Mais il faut faire très attention. Et cette femme, donc, a été comme ça, remuée pendant pas mal de temps. Et puis un jour, elle a fini par accepter que l'on prie pour elle, pour qu'elle soit baptisée dans le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, c'est important de vivre les dons spirituels, la vie de l'Esprit. Que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Et c'est l'ensemble de ces vertus et de ces dispositions qui fera que le croyant, que vous, qui avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous serez ainsi utilisable par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas moi qui utilise le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui m'utilise. Comme ce n'est pas moi qui me sers de la parole, c'est pas la parole qui est à mon service, c'est moi qui suis au service de la parole. Donc ça, pouf. Ça balaye toutes les fausses doctrines auxquelles on pourrait s'attacher. Ou de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La définition des dons spirituels, dans cette introduction, je vais les donner. Je dirais que tous ces charismes, j'emploie un mot littéral, grec, de la parole de Dieu, ont en commun la qualité et la particularité d'être accordés par le Saint-Esprit d'une manière surnaturelle et d'une manière miraculeuse. Il y a d'abord les dons de révélation. Alors, je ne m'étends pas sur chaque don, je verrai ça plus tard. Je fais une introduction. Les dons de révélation. Il y a quelque chose déjà d'important à souligner, c'est que les dons de révélation ne doivent être comparés en aucun cas à de l'intuition ou à un pressentiment humain. L'intuition et les pressentiments humains, ça, ce sont des qualités qui peuvent aussi se rencontrer chez des incroyants. Sans que le Saint-Esprit soit pour quelque chose. Les dons spirituels, et ceux-là, les dons de révélation, j'y viens dans quelques instants, ne sont pas à comparer avec, j'insiste, hein, l'intuition ou le pressentiment. Ah, j'ai une intuition. Ah, j'ai un pressentiment. Ah, le Saint-Esprit. Non. Ne mélangez pas le Saint-Esprit à cela, parce que c'est grave. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'une intuition ? Je me permets d'être un peu plus détaillé. Qu'est-ce qu'une intuition ? L'intuition, c'est un sentiment vague, c'est un sentiment intuitif qui fait prévoir ce qui va arriver, qui suppose qu'une chose est. Le pressentiment, c'est un sentiment vague, également intuitif, qui fait prévoir ce qui va arriver et qui suppose... Pardon, ça c'est le pressentiment, c'est ce que je viens de dire. Qui suppose qu'une chose est. Et l'intuition, c'est la connaissance claire, immédiate d'une vérité, sans l'aide de raisonnement. La révélation, puisque je parle des dons de révélation, La révélation, c'est l'action de Dieu qui fait connaître aux hommes les vérités que la raison ou l'information ne saurait découvrir. Ça, c'est la révélation. Et dans les dons de révélation, vous avez la parole de sagesse. Chaque fois, chaque groupe, c'est un groupe de trois. Il y en a neuf. La parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une révélation surnaturelle par le Saint-Esprit de la volonté de Dieu, du conseil de Dieu. Par exemple, le livre des Actes, chapitre 6, versets 2 à 4, il est écrit « Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Parole de sagesse. Acte 15, 13, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole, ils sont dans cette fameuse conférence de Jérusalem, et Jacques va prendre la parole et va dire, « Homme, frère, écoutez-moi. » Et si vous lisez la suite, il y a des paroles de sagesse. Donc, elle peut également, la parole de sagesse, être inclue dans la prédication, dans le témoignage. Et elle peut également revêtir la forme d'une révélation, je mets entre guillemets, d'une forme de prédiction prophétique. Pourquoi pas, il y a la parole de sagesse. Pourquoi je dis prophétique? Parce que, après tout, les neuf dons spirituels sont interactifs. C'est pas un don, hop, je mets un mur, un don, je mets un mur, un don, je mets un mur. C'est pas compartimenté. Les neuf dons travaillent ensemble. Vous avez la parole de connaissance. La parole de connaissance est une révélation surnaturelle de faits, de choses, de besoins, d'événements connus de Dieu dans le présent ou le passé. Acte 5, 3, Pierre va dire ceci, Ananias. C'est cette problématique dans ces premiers siècles qui va se manifester au sein de l'Église, de ce couple, Ananias et Saphira, qui ont menti. D'ailleurs, Pierre leur dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Là, c'est une parole de connaissance. Et non seulement Ananias est montré ainsi par Pierre, par l'action du Saint-Esprit, mais également sa femme, Saphira. Et ils vont tous les deux décéder immédiatement parce qu'ils ont menti à Dieu. Le troisième, c'est le discernement des esprits. C'est une révélation surnaturelle dans le domaine des esprits qui révèle leur présence, qui permet leur identification. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'Esprit de l'homme? Ça, manière de raisonner. Ou est-ce que c'est un mauvais esprit? Et je pense que ça, c'est très important. Vous voyez, quand il est écrit pour l'utilité commune, dans l'Église, c'est pas seulement le travail du pasteur, c'est le travail de tous. Reconnaître si ce qui se manifeste vient de l'Esprit de Dieu. Il y a quelques années de cela, dans l'église de Montpellier, pendant les vacances d'été, alors là, ça, il y a beaucoup de passages dans nos églises, et c'était dans l'église de Montpellier. Il y a eu le culte, le déroulement du culte, et puis d'un seul coup, il y a eu des dons spirituels. Et on a entendu, ça ne nous a pas choqué, on a entendu un don de parler, normalement, un don de parler diverses langues. Un parler en langue. Mais à la voix, parce qu'on connaît l'Église, on se dit, mais ce sont des gens de passage. écoutez la suite. Le culte se termine, il n'y a pas d'interprétation. Vous allez comprendre pourquoi. Le culte se termine. Et il y avait également de passage dans l'église des Hollandais, des chrétiens hollandais. Et ils sont venus vers nous, les serviteurs de Dieu, pour nous dire, il faut qu'on vous prévienne de suite. Il y a un gros problème dans votre église. On ne comprend pas. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le don spirituel, ou du moins, soi-disant, le don spirituel, parlé en langue de tout à l'heure, pendant le culte, nous l'avons compris. Pas par l'interprétation, mais humainement parlant, parce que Paul dit qu'il y a beaucoup de langues sur la terre, et dans les dons spirituels, donc le parler en langue, le parler diverses langues, c'est des langues de la terre, des dialectes, il y en a beaucoup, peut-être même la langue du ciel, certainement aussi, qui peut se manifester, mais là, ils ont dit, on a compris. Ce n'est pas la première fois que ça arrivait d'ailleurs. On a compris. Et en définitive, ce que ces gens ont dit, ou du moins cette personne, ce qu'elle a dit, c'était continuellement des insultes contre Dieu. Alors, mais les personnes étaient parties déjà. Il faut arriver à discerner. Mais en même temps, c'est dans le domaine de l'action, de la guérison, du pardon. Acte 14:9, ils écoutaient parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds !» Il se leva d'un bond et marcha. Il va y avoir une action. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Et puis dans Acte 8, verset 20, verset 21, ici c'est Pierre qui va dire à Simon le magicien, qui s'est converti, et puis ensuite Pierre et Jean, puisque c'est Philippe qui annonce l'évangile à ce moment-là, mais Pierre et Jean arrivent en renfort pour prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, pour que ces gens de Samarie soient baptisés aussi de l'Esprit, vivent la vie de l'Esprit. Et puis Simon est dans le groupe. Et quand il voit cela, il dit à Pierre, mais dis-moi, pas possible de recevoir cette même puissance, et je te l'achète si tu veux. Il manque pas d'air. Lui. Ouais. Et là, Pierre lui dit, mais Ananias, regardez, Ananias. Alors, quelqu'un aurait pu dire, dans ce monde d'aujourd'hui, où il y a tellement de fausses doctrines, ah oui, c'est, oui, ça va coûter cher, hein. Ça, ce sont des faux docteurs, des faux pasteurs, des gens qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu. Tout ce qui vient du Saint-Esprit ne se monnaie pas. Tout ce qui vient de Dieu ne se monnaie pas. Dieu n'a pas besoin de notre argent souillé. Tout ce qui vient de Dieu est gratuit. Tout ce qui vient de l'Esprit de Dieu est gratuit. C'est une grâce, le salut, le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels pour l'utilité commune. Pas pour me faire plaisir, pour l'utilité des âmes. Et ici, bien sûr, eh bien, il y a le discernement. Pierre, là, il est rempli de l'esprit, vit ce don spirituel, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Vous avez également les dons de puissance. Les dons de puissance. Il est important de souligner que les dons de puissance, nous ne devons pas les confondre avec des actes de puissance réalisés par, je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste, par les guérisseurs, par les magiciens de tous bords. Il y en a plein le Tarn. Jésus et Paul nous ont avertis à l'égard de ces pratiques occultes, dangereuses et séductrices, et qui détruisent. D'ailleurs, même Jésus, dans ce qu'on appelle donc les discours eschatologiques du Seigneur en ce qui concerne les derniers temps, Jésus va dire, Matthieu 24, versets 24 à 25, « Car il s'élèvera de faux Christ, il s'élèvera de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, la séduction, s'il était possible, même les chrétiens. » même les élus. Voici, dit Jésus, je vous l'ai annoncé d'avance. Les dons de puissance sont la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ, dans les œuvres physiques, matérielles, diverses. Premier don, dans le cas des dons de puissance, toujours par trois, le don de foi. Le don de foi, c'est une confiance en Dieu surnaturelle pour des choses miraculeuses. On n'est pas là dans la foi qui sauve. Elle est tout autre donc que la foi pour le salut ou la guérison, ou le baptême du Saint-Esprit, ou la foi dans la parole de Dieu. C'est tout à fait différent. Par sa manifestation, par la manifestation du don de foi, le croyant peut endurer des épreuves difficiles. Mais il peut aussi accomplir des œuvres de puissance telles que chasser, par exemple, les démons. Alléluia. Les dons de miracles, deuxième. C'est une intervention surnaturelle, les dons de miracles, dans le cours ordinaire de la nature qui change radicalement les choses. C'est un miracle. Et le troisième, c'est les dons de guérison. J'attire votre attention sur le pluriel, les dons, le don de foi, les dons des miracles et les dons de guérison. C'est une puissance surnaturelle pour la guérison de toute maladie, de toute infirmité. Alors je fais une remarque. Je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste. Plusieurs dons peuvent être à l'œuvre ensemble. Par exemple, le discernement, le don du discernement des esprits, conjugué avec le don de foi, et conjugué avec le don, les dons, pardon, de guérison. Actes 3, 6, 7, vous avez les trois dons. Ils travaillent ensemble. Vous avez Actes 3, versets 6 et 7, donc, j'insiste, vous avez le discernement des esprits, le don de foi et les dons de guérison. Pierre s'approche du temple avec Jean pour aller prier. Et il y a ce boiteux qui est amené tous les jours à la porte appelée la belle du temple. Et là, il va dire à cet homme, « Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et en prenant par la main droite cet homme, il le fit lever. Et au même instant, les pieds et les chevilles de cet homme sont devenus fermes. Mais juste avant, je ne l'ai pas cité, mais juste avant, vous avez ce verset où il est dit que Pierre, même Jean qui était présent, ont regardé cet homme. Et ils ont vu que cet homme était disposé à recevoir la guérison, la bénédiction, la grâce de Dieu. Et mes frères et sœurs, vous comprenez au combien c'est important les dons spirituels. Quand vous êtes en train de rendre témoignage à quelqu'un, quand vous êtes en train de partager votre foi à quelqu'un, avec quelle arme vous venez? Quand je dis « arme » entre guillemets, avec quel moyen vous venez? Avec quelle disposition vous venez? Avec quoi? Avec vous-même? En vous appuyant sur le fait que vous croyez en Jésus? Que vous avez la foi en Jésus? C'est très bien. Mais c'est pas suffisant. En face de vous, vous avez des gens qui sont peut-être là, possédés. Vous avez des gens qui sont dans une situation incroyablement difficile. Vous avez des gens chez qui vous devez discerner certaines choses. Qu'est-ce que vous voulez leur apporter sinon? Et même eux, se rendant compte, parce qu'ils ne sont pas au Seigneur, surtout s'ils sont possédés, se rendant compte par les esprits mauvais ou l'esprit mauvais qui est en eux, que vous n'avez pas cette puissance, ils risquent de vous séduire. Et on en a vu des chrétiens se laisser séduire. Parce qu'ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas équipés. Les dons spirituels, c'est pour l'utilité commune, c'est pas une option. C'est étonnant que dans notre mouvement de Pentecôte, dans nos églises évangéliques où il y a la vie de l'esprit, certains chrétiens regardent la vie de l'esprit comme une option. Mais qui c'est qui vous a dit ça? Qui c'est qui vous a dit ça? Qui c'est qui vous a raconté ça? En tout cas, c'est pas la Bible. Hein. C'est pas une option, hein. Moi, je fais partie d'un mouvement de Pentecôte, de l'Esprit. Je suis pas dans un mouvement évangélique qui ne croit pas dans la vie de l'Esprit. Ça, c'est leur problème devant Dieu. Mais je voudrais vous dire que ici, comme dans d'autres assemblées de Dieu de France, nous prêchons la vie de l'Esprit. Et nous la vivons. Et puis, Je vais terminer pour ce matin, puisque c'est qu'une première partie. Ça va certainement m'amener jusqu'à la fin du mois de juin, avant de prendre des congés, mais c'est important. Vous avez les dons d'inspiration, donc là c'est les trois derniers. Et là aussi, je souligne quelque chose d'important. Nous ne devons pas assimiler ces manifestations. Ici, je parle des dons d'inspiration, une fois de plus, aux pratiques occultes des 10 heures de bonne aventure. Bref, bonne aventure entre guillemets. Des devins, des spirites, des nécromanciens et tout ce que vous voulez dans ce monde occulte. D'autant plus que dans Deutéronome chapitre 13, mais c'est toujours souligné dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, Dieu a horreur de telles pratiques. Les dons d'inspiration sont des manifestations vocales pour parler de la part du Saint-Esprit. Vous avez la première, c'est la prophétie. Et Paul va beaucoup parler, on y reviendra dans la suite du message, sur les dons spirituels, la vie de l'Esprit. Paul va énormément insister là-dessus, la prophétie. La prophétie. La prophétie, c'est une expression toujours surnaturelle, hein, les dons spirituels, c'est surnaturel, qui consiste à donner, dans sa langue maternelle, comprise des auditeurs où je suis, un message de la part du Saint-Esprit, mais, comme dit Paul au chapitre 14, verset 3, un message de la part du Saint-Esprit de Dieu, de l'Esprit de Christ, qui exhorte, qui console et qui édifie. À partir du moment où une prophétie ou un don spirituel, dans le sens du don des dons d'inspiration, ne reste pas dans ce cadre-là, à ce moment-là, normalement, il faut que moi, en tant que pasteur, j'arrête la personne. Et dorénavant, je ne vais pas me gêner. Il ne faut pas de dérapage. Il y a un cadre. Et je l'explique en ce moment et je l'expliquerai encore parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. C'est écrit dans 1 Corinthiens 14. Paul le cite par rapport aux dons spirituels, à la manifestation des dons dans le cadre de l'Église. On ne verrouille pas les dons, on ne verrouille pas la vie de l'Esprit. Je ne me permettrai jamais de le faire, mais seulement il y a un cadre. Pour que les inconvertis, les incroyants ne soient pas choqués. On y reviendra. Et donc la prophétie, ça ne risque pas de choquer puisque c'est dans la langue maternelle. Là où ça va être un peu plus choquant, c'est quand c'est seulement le parler en langue qu'il n'y a pas d'interprétation derrière. On y reviendra là-dessus. Quand il y a la prophétie, je le répète, ça exhorte, ça console, ça édifie. Je vous donnerai juste un témoignage, je vais faire très vite pour terminer, pour ce matin. J'étais invité dans une église, Assemblée de Dieu de France, il y a quelques années de cela. Une église assez importante d'ailleurs, oui. Mais dans cette église, il y a eu le déroulement du culte, bien sûr. Et à un moment donné, il y a eu une prophétie. Et la prophétie disait ceci, je m'en souviens encore, parce que ça a fait des problèmes. Enfin, la prophétie, entre guillemets, parce que ça n'était pas une. Elle disait ceci, cette personne disait ceci, ça fait des années que tu cherches à avoir un enfant, et l'enfant que tu portes va mourir. Attendez. Moi, j'entends ça, j'ai oublié. Pourquoi pas? Si ça vient de Dieu, ça peut arriver. Hein, il y a des choses qui nous échappent. Dieu fait comme il veut. Mais là, vraiment, ça a créé un malaise, quoi. Pourquoi ça a créé un malaise? Mais moi, je connaissais pas l'Église. Ça a créé un malaise parce que les chrétiens connaissaient l'Église. Et en définitive, cette personne qui a fait cela, à la fin du culte, a été appelée par le pasteur et le conseil, le collège des anciens, pour lui demander de ne plus jamais recommencer cela, parce qu'il y avait en effet dans l'Église, et cette personne qui a donné cette parole le savait, je ne sais pas pourquoi elle a dit cela, bref, elle n'était pas du tout sous l'inspiration de l'Esprit, et elle a, cette chrétienne, effectivement, avait essayé à plusieurs reprises d'avoir un enfant, elle n'y arrivait pas, et là, elle portait un enfant, elle était presque à terme. Et quand elle a entendu ça, elle s'est écroulée en larmes. Je me souviens de cette femme, en larmes. Elle était défaite, découragée, mal dans sa peau. Elle a été récupérée grâce à Dieu. Elle a donné naissance à son enfant. Mais la personne de l'Église qui a dit ça, elle a été reprise parce qu'il y a un cadre. On ne se sert pas des dons spirituels, excusez-moi, c'est grave, pour faire passer son idée, pour faire passer son petit message, pour faire passer sa petite marotte, pour dire à quelqu'un ceci ou cela, jamais de la vie il faut faire ça. C'est grave, on est répréhensible. On ne s'amuse pas avec le Saint-Esprit. On ne s'amuse pas avec Dieu. Maintenant, ça ne doit pas vous faire peur de vivre la vie de l'Esprit, mais soyez ouverts, demandez si quelqu'un a soif, qu'il demande et qu'il reçoive. Ne vous bloquez pas, ne vous verrouillez pas, maintenant il faut faire attention. Ça exhorte, ça console, ça édifie. Et puis les deux autres, c'est le don de parler diverses langues, c'est une expression surnaturelle dans une langue inconnue de celui qui la parle, hein. Voilà. Et son exercice se manifeste dans l'Église, pas en dehors de l'Église. Il y a le cadre de l'Église, dans l'Église. Et c'est à distinguer de sa manifestation au moment du baptême dans le Saint-Esprit. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, il y a ensuite le parler en langue, qui édifie sa vie personnelle dans la prière. Dans la prière. Moi, quand je prie et que je loue Dieu, certes, je vais parler en langue, à mi-voix, mais là, je m'édifie, c'est pas un don spirituel. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas d'interprétation des langues, très souvent, c'est que celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit et qui vit, eh bien, les dons spirituels, à ce moment-là, il n'a pas été malléable. Peut-être donner un parler en langue pour l'édifier lui. Certainement qu'il a dit de belles choses, qu'il glorifie Dieu, nous dit le texte de l'Écriture, 1 Corinthiens 14. Mais les autres ne sont pas édifiés, ils ont rien compris. Il n'y a pas là le don de parler diverses langues, qui doit être suivi, c'est le troisième et le dernier, d'interprétation des langues. C'est une expression surnaturelle qui consiste à rendre intelligibles les messages en langue. Je m'arrête là pour ce matin, on ira plus loin la prochaine fois, et on verra ce que sont les dons par nature. Là, j'ai vu rapidement chacun de ces trois groupes, de ces trois dons spirituels, 9 dons, qui sont interactifs et qui se rejoignent les uns les autres dans l'expression. Mes frères et sœurs, je vous encourage à vivre cela. Il y a une chose qui me réjouit par-dessus tout, c'est de le vivre dans mon ministère pastoral, quand je suis en visite, quand je rencontre des gens, quand je parle à des personnes, quand je suis dans l'Église, quand je vois certaines choses, je les ressens, et d'autres ici aussi peuvent le confirmer pour eux-mêmes. Mais nous le recevons non pas pour juger, nous recevons pour prier. Nous recevons pour bénir. Nous recevons pour aider. Nous recevons pour intercéder, pour mener le combat, pour que certaines choses cessent. Parce qu'on ressent spirituellement certaines choses. Pour le bien de l'Église locale, pour le bien de l'Église sur le département, dans la région et dans notre pays. Mes frères et sœurs, je vous encourage à être revêtus du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus, acceptez-le comme sauveur, et puis demandez-lui d'être baptisé dans le Saint-Esprit, il va le faire. Demandez-lui de vivre les dons spirituels, alléluia, et il va le faire. Et vous allez voir, l'église de Groyer, elle va être, allez, j'emploie le mot, puissante. Puissante, par rapport aux ténèbres du dehors, par rapport à toutes ces pratiques occultes du dehors. Alléluia. Ok les jeunes. On a encore des choses à voir ensemble. Hein. Ok, les moins jeunes. Là, je lève ma main. Alléluia. Madame Martin, Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur est bon. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci de ce que nous avons pu simplement, à la lumière de ta parole, étudier cette première partie qui concerne les dons spirituels, la vie de l'esprit. Je te prie pour que dans cette église, dont tu me fais la joie et l'honneur d'être le pasteur, le conducteur spirituel, je souhaite que dans les semaines qui viennent, pendant la période de l'été, lors de la rentrée prochaine, je puisse, Seigneur, en tant que ton serviteur, selon ta volonté dans cette église, voir, entendre, remarquer cette vie de l'esprit d'une manière abondante, dans le cadre biblique, d'exhortation, de consolation, d'édification. Et puis on pourrait rajouter, bien sûr, de salut, de guérison, de miracle, de prodige. Nous le désirons, j'en ai soif. Et je sais que plusieurs ont soif comme moi, si ce n'est tous. Bénis cette église de Groyer. Et au-delà de cette église locale, bénis nos assemblées de Dieu de France. Bénis-nous le corps pastoral, pour que nous puissions être dans ce cadre-là continuellement, parce que c'est un véritable bonheur. Jésus, merci pour ton Saint-Esprit. Ah, je te suis profondément reconnaissant, et mes frères et sœurs aussi. Merci pour notre consolateur. Merci pour cette effusion. Merci pour ces dons spirituels. Mais quel bonheur, quelle grâce, quel bienfait tu nous donnes, la possibilité de vivre du surnaturel pour les âmes. Seigneur, vraiment, un grand merci. Et encore, dans les dimanches à venir, quand nous y reviendrons sur ce thème, permets que les cœurs soient encore ouverts. Au nom de Jésus. Alléluia.